Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Merci de nous choisir, fidèles du Club de Tamani. Vous suivez votre émission culture, celle qui justement vous met au diapason de l'actualité, du sport, de la musique et bien d'autres. Ce soir, nous nous intéressons au manuscrit de Tombouctou Aïcha.
Oui, Lala, il y a exactement 13 ans, face à l'avancée des groupes terroristes et la destruction de certains de ces manuscrits, ils ont dû quitter leur foyer, c'est-à-dire la ville sainte. Aujourd'hui, après plus d'une décennie d'exil et de préservation à Bamako, ce 11 août, ils ont signé leur retour au Bercail.
Et Aïcha, ce retour n'est pas qu'un simple déménagement de caisse, c'est un retour aux sources, un acte de foi envers un patrimoine dont la valeur est inestimable.
Ce retour signifie-t-il l'amélioration de la situation sécuritaire dans la cité des 333 Saint-Lala?
Où en sommes-nous donc avec le processus de numérisation de ces archives?
Quelles sont les mesures prises pour assurer la sécurité de ces pages multiséculaires chargées d'histoire?
Nous en parlons ce soir avec M. Al-Bouhari Ben Essayouti. Il est le directeur de la mission culturelle de Tombouctou. À la présentation, je suis Lala Diarra Touré, avec moi
Aïssata Diarra.
Mamadou Ouattara est de l'autre côté de la baie vitrée pour conduire les opérations techniques. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Aïcha.
Bonsoir Lala, je te sens particulièrement contente ce soir. C'est quoi le secret?
Oh, rien d'exceptionnel, hein, juste le mood du week-end activé.
Alors, mettons donc de l'ambiance pour rester collé à l'ambiance détendue du week-end.
Commençons donc avec Alasko Djavate, Watidosira, l'enfant de Kela.
Alasko Kela Kalula Djavate. Angal nabaga nyoma dunya rotena jani beni daga lo nyaya tumarse siraja yamse kobe labato dunya lema sumi champion.
Appelle à la prise de conscience chez les jeunes Lala.
Elle est signée Alisko Djavate à l'instant sur les platines de Mamadou Ouattara. Aïcha, accueillons maintenant Moussa Malé Sissoko pour la revue de la presse.
La revue de la presse.
Bonsoir Moussa Malé Sissoko, ravi de t'accueillir ce soir.
Bonsoir Lala et Aïcha, ravi d'être avec vous cet après-midi.
Alors, quel est le sujet qui a fait les titres cette semaine, Moussa Malé Sissoko?
L'interdiction des soirées Dior a marqué la une de la presse malienne cette semaine. Lala, les soirées Dior sont désormais interdites à Bamako. La décision a été annoncée lundi dans un communiqué du gouverneur du district. Les soirées Dior, également appelées soirées Boubou Dior, sont des rassemblements exclusivement féminins en vogue ces derniers temps dans les grandes villes de la sous-région. Cette information a fait la une du quotidien privé Infomatin. Le journal explique que ces événements sont inspirés d'un mélange de traditions locales et d'influences modernes en fêtes privées où des femmes souvent mariées ou jeunes se réunissent pour célébrer des anniversaires, des mariages ou simplement pour se divertir. Et les participantes s'habillent en tenues traditionnelles luxueuses, des boubous multicolores et raffinées. Selon Infomatin, ces vidéos virales montrent les mouvements suggestifs comme des roulements des hanches ou des chorégraphies provocantes. La pratique importée principalement de la sous-région par les réseaux sociaux prend de l'ampleur chez les jeunes filles à Bamako, notamment dans les appartements de location, constate l'hebdomadaire Journal du Mali. Et Judem de poursuivre, récemment, l'appel d'une influenceuse sur TikTok à participer à une soirée qu'elle organisait a suscité de vives réactions et ouvert le débat sur les réseaux sociaux et dans les rues de la capitale. Le site d'information bamada.net rapporte que le gouverneur de Bamako, premier à intervenir sur la question, a prévenu que toute manifestation publique dite soirée Dior ou pratique assimilée contraire aux bonnes mœurs dans la capitale malienne seront sévèrement sanctionnées. Selon le site, le gouverneur avance des raisons d'ordre public pour justifier sa décision. Le gouverneur de Koulikoro emboîte le pas à celui de Bamako, révèle l'indicateur du renouveau. Selon le quotidien du groupe Renouveau, le colonel Lamine Kapori-Sanogo a décidé de l'interdiction des manifestations publiques dites des soirées Dior dans la région. C'est une mauvaise nouvelle pour les adeptes des soirées Dior, commente le site Maliweb. Soirée Dior, le ministre de la Justice demande au procureur de sévir, rapporte l'Indépendant. Ce quotidien privé souligne qu'au lendemain de l'interdiction des soirées Dior, Mamoudou Kassougué a rappelé que ces soirées présentées sous forme d'exhibitions malsaines, des pratiques libertines et obscènes vont à l'encontre des us et coutumes et troublent l'ordre public. Et le site Mali 24 de préciser, les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Aussi a renchéri le quotidien numérique, le ministre charge les autorités locales comme les sous-préfets, maire, président des délégations spéciales, agents communaux, ainsi que le directeur régional de la police nationale, d'assurer l'application stricte de cette décision. C'est tout pour cette page dédiée à la revue de la presse.
Merci beaucoup Moussa Malé Sissoko et à tout à l'heure pour la version en langue nationale bamanankan.
Et Aïcha en chinois avec les coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Pour cela, nous pouvons toujours compter Lala sur la Miss Hightech Fatoumata Koudjou. Miss Hightech, bonsoir.
Bonsoir, je vais bien et coucou à tous nos auditeurs.
Alors, de quoi va-t-on parler ce soir, Fatoumata Koudjou?
Ces derniers temps, les messages, discours, images de propagande et plus encore inondent les réseaux sociaux. Notre rubrique du jour s'intéresse à ces phénomènes. Pour approfondir cette question, nous nous sommes entretenus avec Lassina Nyangali, journaliste, fact-checker et cofondateur du Jalon. Suivons ensemble.
La propagande, c'est l'ensemble des méthodes utilisées pour manipuler l'opinion publique, voire même endoctriner une population pour leur faire croire ou adhérer à des idées politiques.
Quels sont, selon vous, les principaux objectifs de la propagande diffusée via les réseaux sociaux?
C'est de faire adhérer le public à l'opinion ou à la position politique que les auteurs défendent. Les manipuler par les moyens de mensonges, d'exagération, de manipulation d'informations. Aussi, asseoir son autorité politique.
Quelles sont les techniques les plus fréquemment utilisées pour manipuler l'opinion sur les réseaux?
Les médias publics, certains médias privés, sur les réseaux sociaux, aussi à travers les opérations coordonnées sur les réseaux sociaux, créer des faux comptes. Généralement, c'est des opérations qui sont menées par ce qu'on appelle des entreprises de marketing politique en lien avec certains États. Donc, diffuser des fausses informations, répéter et relayer de manière irrégulière pour que l'opinion puisse croire à ces fausses informations et pouvoir les manipuler.
Quels sont les signes qui permettent à un utilisateur de reconnaître un contenu de propagande?
C'est une déclaration, une information diffusée de manière exagérée, une déclaration qui n'est pas basée sur des sources, des éléments concrets. Donc c'est une déclaration basée vraiment sur le commentaire. C'est à travers ça qu'on peut reconnaître très rapidement un contenu de propagande.
Quelles solutions ou bonnes pratiques recommanderez-vous pour limiter l'impact de la propagande sur les réseaux sociaux?
L'État même prennent conscience que les propagandes peuvent avoir un impact sur la bonne gouvernance, sur la gestion du pays, parce que ça leur rend la tâche plus difficile. Alors, l'autre moyen, c'est de sensibiliser le maximum possible des populations. Il y a certains pays ont intégré même l'éducation aux médias dans leur cursus scolaire pour sensibiliser les jeunes sur comment reconnaître une bonne et une mauvaise information. Mais ça aussi, ça peut être efficace pour minimiser l'impact.
Merci pour votre écoute. À la semaine prochaine, s'il plaît, adieu.
Merci Miss Hightech et à la semaine prochaine.
Faisons de la place à présent pour l'invité culture.
L'invité culture.
C'est lui que nous recevons ce soir. Lala est le directeur de la mission culturelle de Tombouctou.
Il s'appelle Monsieur Al-Bouhari Ben Essayouti. Bonsoir monsieur.
Bonsoir madame.
Nous sommes ravis de vous accueillir.
Je suis ravi d'être là.
Oui, alors on va directement Lala entrer dans le vif du sujet. Alors monsieur, comment la population de Tombouctou a accueilli le retour de ces manuscrits? Qu'est-ce que ces manuscrits représentent pour Tombouctou?
Alors, merci beaucoup. Donc, pour les populations de Tombouctou, toutes les communautés, ça a été un ouf de soulagement. Parce que si vous êtes à Tombouctou, si vous suivez l'actualité, chaque fois qu'il y a des délégations ministérielles qui vont à Tombouctou, okay, ils rencontrent d'abord les communautés, les légitimités traditionnelles. Okay. Et invariablement, c'est toujours la même requête, il faut que les manuscrits reviennent à Tombouctou. Donc ça, ça a été une demande forte depuis 2013. Et pour des raisons de sécurité, de conditions d'accueil, ça ne s'est pas passé. Et cette année, puisque c'est l'année de la culture, décrétée par le président de la transition, donc le gouverneur de région s'y est mis, les populations l'ont accompagné et les manuscrits sont donc revenus.
Et justement, comment sont-ils conservés après ce retour, on va dire, tant attendu? Et quels sont les défis liés à la préservation de ces documents fragiles?
Alors, il faut se dire d'abord que, contrairement à Bamako ou au sud du Mali, le climat de Tombouctou est très propice à la conservation des manuscrits. Ça, c'est un facteur important, parce qu'ici, on a un climat très humide, notamment pendant l'hivernage, et le papier n'aime pas l'humidité. Alors qu'au nord, on a un climat sec, aride, qui est propice à la conservation des manuscrits. Ça, c'est les facteurs naturels. Mais ensuite, je pense que puisque c'est les manuscrits de l'Institut Ahmed Baba, l'Institut Ahmed Baba a des locaux adéquats pour la conservation de ces manuscrits. Parce que Thabo Mbeki, quand il était président de l'Afrique du Sud, il a visité Tombouctou, il a visité les manuscrits et il a été émerveillé de voir tant de trésors conservés en un lieu. Donc c'est alors là que lui a pris les devants et il a pu doter Tombouctou d'un centre vraiment adéquat qui a toutes les commodités pour pouvoir conserver donc les manuscrits.
D'accord. Alors, aujourd'hui, on peut dire que ces manuscrits-là sont en sécurité.
Oui, les manuscrits sont absolument en sécurité. Parce que si vous voulez, en plus de ces commodités liées au lieu de stockage, la sécurité au niveau à l'intérieur de la ville de Tombouctou s'est beaucoup améliorée. Voilà, donc je pense que sur le plan sécuritaire, il y a ce qu'il faut pour que ces manuscrits restent là.
D'accord. Ouais. Alors, M. Al-Bouhari, comment la numérisation des manuscrits a-t-elle progressé pendant leur exil? Est-ce que ce travail de sauvegarde numérique continuera à Tombouctou?
Ah, il faut se dire que pour ces manuscrits, je ne sais pas si on peut appeler ça de type, mais en fait, il y a les manuscrits, je veux dire, de deux ordres.
D'accord.
Il y a les manuscrits de l'Institut Ahmed Baba qui sont revenus et qui appartiennent à l'État malien et qui ont eu des financements pour la numérisation ici. Il y a des manuscrits qui, je pense que c'est les plus nombreux, qui appartiennent à des privés.
À des familles.
À des familles. Donc ces manuscrits, beaucoup ont été déplacés ici avec l'ONG savamment, mais il y a quand même des familles détentrices qui ont gardé ces manuscrits à Tombouctou. Alors donc ici, je pense que sur le plan de la digitalisation, il y a eu beaucoup d'efforts. Mais avec l'Institut Ahmed Baba et l'ONG savamment, mais du côté des familles détentrices, il y a quand même des familles réticentes pour numériser les manuscrits pour diverses raisons.
D'accord.
Merci beaucoup, alors, M. Al-Bouhari Ben Essayouti. Je rappelle que vous êtes le directeur de la mission culturelle de Tombouctou. Là, maintenant.
Nous allons partir en musique, il est temps de souffler un peu, marquer une petite pause.
Oui, là, les titres que nous allons écouter maintenant peut-être qualifiés d'hymne de la mystérieuse.
Absolument, Aïcha et celle qui l'a chantée n'est malheureusement plus, mais cette chanson continue de résonner dans les familles lors des fêtes et autres événements heureux. Il s'agit bien de Khaira Arbi et le titre c'est Tombouctou.
Des retours dans ce studio, si vous venez de prendre le train en marche, eh bien, sachez que vous suivez le Club de Tamani, l'émission culture des studios Tamani sur les antennes de nos radios partenaires.
Nous poursuivons notre séance de questions-réponses avec l'invité qui, je rappelle, est M. Albouhaoui Ben Essayouti. Il est le directeur de la mission culturelle de Tombouctou. Alors, M. Essayouti, comment les jeunes maliens se connectent-ils à cet héritage? Y a-t-il des initiatives pour les impliquer dans la lecture ou l'étude de ces textes?
Alors, oui, c'est quand même quelque chose de très important. Pourquoi ? D'aussi un peu problématique, parce que pourquoi les manuscrits qu'on a à Tombouctou, c'est majoritairement des manuscrits arabes. Oui. C'est écrit en langue arabe, même si on peut trouver quelques manuscrits qu'on appelle adjami. L'adjami, c'est des manuscrits écrits en caractère arabe, mais exprimés dans les langues locales. Mm-hmm. On en trouve beaucoup en peul et en tamashek, mais aussi en soreille, en adjami. Par exemple, il y en a en Bouzou, en Bambara, il y en a. Donc, le problème, c'est la traduction, c'est l'interprétation. Mais il y a beaucoup de jeunes étudiants qui s'y intéressent. Il y a beaucoup de travaux, de mémoires, de thèses sur les manuscrits. Parce qu'on est beaucoup sollicité pour donner des avis, même en ce moment. Je suis avec un étudiant de, je pense, La Flash, qui travaille. Voilà, donc ça, c'est, si vous voulez, la première porte d'entrée des jeunes vers ces manuscrits, c'est les travaux de recherche. Bon, ensuite, c'est un secteur qui peut être pourvoyeur d'emplois. C'est très clair. Avant, c'était le tourisme qui générait un peu de ressources pour les visiter. Mais actuellement, avec la digitalisation, la mise en boîte, la construction des bibliothèques de manuscrits, mais ça fait aussi que c'est un secteur qui peut être pourvoyeur d'emploi. Il y a un atelier de calligraphie qui a vu le jour à Tombouctou et qui reproduit sur des supports comme les cuirs ou des caisses, du bois, qui reproduit sur du cuir ou du bois certains manuscrits, certains motifs qu'on trouve dans les manuscrits et qui sont vendus. et qui se vantent bien d'ailleurs.
Déjà une avancée notoire.
Voilà. Donc là, c'est aussi quelque chose d'important. Okay. Parce qu'il faut se dire une chose, le manuscrit, c'est deux choses. C'est d'abord le contenu. Si vous prenez le contenu, à une écrasante majorité, ces manuscrits, c'est soit le Coran, soit les traditions islamiques. Il y a un livre qu'on appelle de l'Al-Khairat, il y en a beaucoup. Tous ces livres-là constituent l'écrasante majorité, mais il y a une petite quantité de manuscrits d'écrits scientifiques. Donc, il y en a, moi j'ai vu un sur le principe de la rotation des planètes, il y a un traité de médecine, etc. Il y a ces choses-là, il y a des livres d'histoire. Ça, sur le contenu, c'est important. Mais il y a le contenant, c'est-à-dire le manuscrit lui-même, c'est l'écriture. Il y a plusieurs types d'écriture et dans le manuscrit, vous pouvez trouver des alluminures, des motifs qu'on ne s'explique pas aujourd'hui. Il y a des dessins et généralement, c'est ces dessins qui sont repris par les calligraphes sur d'autres supports et qui sont vendus.
Justement, vous avez anticipé sur la question.
Oui. Vas-y, Aïcha. Alors, Monsieur Al-Bouhari, quelles sont les perspectives à long terme pour les manuscrits de Tombouctou? Y a-t-il un plan pour les rendre plus accessibles aux chercheurs et au grand public au-delà des frontières maliennes?
On en parle parce qu'il y a eu absolument depuis 2013. Il faut dire que l'arrivée des djihadistes à Tombouctou, le déplacement des manuscrits vers Bamako, ça a attiré l'attention de beaucoup de décideurs sur ces manuscrits-là. On se rend compte que c'est quelque chose d'important. Donc, à noter d'ailleurs que si les Maliens se sont intéressés aux manuscrits ces dernières années, le colon s'est intéressé aux manuscrits dès les premières heures de la colonisation. Ah. Donc, c'est absolument incontestable. Parce qu'il y a beaucoup de livres, la plupart des livres sur l'histoire africaine, c'est dérivé de deux manuscrits, le Tariq al-Fatash et le Tariq al-Soudan. C'est deux livres qu'on a eu à découvrir à Tombouctou par le gouverneur Clausel et qui ont donné matière à cette histoire-là. Voilà. Mais donc, les perspectives, c'est il faudrait que beaucoup de sensibilisation. Parce qu'il faut se dire une chose, je l'ai dit au début, il y a beaucoup de familles qui sont réticentes à sortir les manuscrits. Parce que pendant très longtemps, les gens gardent les manuscrits à l'intérieur des maisons pour différentes raisons. Les familles ont différentes raisons pour lesquelles, à part certains membres de la famille, on ne veut pas montrer les manuscrits à tout le monde parce que, entre autres, les manuscrits contiennent des secrets de famille. Si vous ne le savez pas, on peut en trouver. Il y en a beaucoup, nous on en a vu, donc c'est pas à divulguer. Donc il faut de la sensibilisation pour que les détenteurs privés acceptent de mettre à la disposition de la recherche ces manuscrits. On a réussi un peu quand on a pu démontrer que ces manuscrits peuvent donner de l'emploi aux jeunes de la famille. Nous, on a fait l'expérience, la mission culturelle, avec une dizaine de bibliothèques. Donc, avec l'aide de l'UNESCO, on a reconstruit, et de l'aménagement aussi, on a reconstruit des bibliothèques. On a pu ouvrir, on a installé les manuscrits, on a fait des projets de numérisation, de digitalisation. Et petit à petit, on a expliqué à ces familles que vous ne sortez que les manuscrits que vous voulez bien sortir. Voilà. Donc, et je sais que je connais au moins une bibliothèque qui a fait ils ont fait un catalogue avec le concours de l'ambassade d'Iran au Mali. Ils ont fait des catalogues, ils ont publié les titres qu'ils ont et ils ont disséminé ça dans les pays du Golfe. Je sais qu'un Saoudien m'a contacté personnellement parce qu'il a vu dans ce catalogue un titre qui peut l'aider pour faire ses travaux de recherche.
Justement, j'allais vous poser la question. Vous êtes le directeur de la mission culturelle de Tombouctou. C'est vrai qu'on parle des manuscrits, mais il y en a dans les contrées éloignées qui ne connaissent même pas le Mali, mais qui connaissent Tombouctou.
Oui.
Quelles sont justement aujourd'hui les difficultés que vous avez dans le travail que vous faites?
Je pense que c'est quand même délicat parce que les manuscrits, c'est une richesse. Les manuscrits, c'est beaucoup d'argent. Et souvent, même les détenteurs ignorent la valeur des manuscrits. Et il y a beaucoup de marchands, je dirais ainsi, qui cherchent à payer ces manuscrits. Donc moi j'en connais parce que je connais, peut-être c'est actuellement le manuscrit le plus
convoité
qui se trouve à Tombouctou dans une bibliothèque parce que c'est avec des alluminures en or. C'est le manuscrit qui a été offert par le roi du Maroc à des religieux de Tombouctou qui sont partis le voir. Donc il leur a donné ce livre en or et je pense que c'est des pays du Golfe qui ont demandé à louer ce manuscrit qui va être déposé chez eux. Ils vont avoir de l'argent, une somme d'argent à payer par mois. Et quand la famille voudrait bien récupérer le manuscrit, elle pourra le récupérer quand elle voudra, mais je pense que ça a été non. Voilà. Elles n'ont pas accepté.
D'accord. Merci beaucoup, M. Al-Bouhari Ben Essaïouti, pour toutes ces réponses. Mais vous restez avec nous, car l'émission n'est pas finie. Lala.
Oui, Aïcha, nous allons faire de la place pour notre sportif maison, Khalifa Goïta.
Faisons le point de l'actualité sportive à présent. Afrobasket de moins de 16 ans en filles au Rwanda. Les filles du Mali se sont qualifiées hier pour les demi-finales. La chance pour la qualification au Mondial 2026 se complique pour les Aigles du Mali. Et puis du handball, le 32e championnat d'Afrique junior féminin, le Mali termine à la 5e place à Oran, en Algérie. Le résumé de tout cela avec Khalifa Goïta.
À Kigali, le Mali continue son aventure à l'afro-basket féminin des moins de 16 ans. En quart de finale ce jeudi, la sélection nationale a battu celle de l'Angola par le score de 57-41. Cette victoire permet au Mali de rejoindre les demi-finales de la compétition avec comme adversaire ce samedi le vainqueur du match Côte d'Ivoire-Rwanda en cours. A noter que le Mali a remporté les 8 dernières éditions du tournoi chez les filles. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles du Mali ont été battu le lundi dernier par le Ghana 1-0, match comptant pour la 8e journée. L'unique but de la rencontre a été marqué par Dikou à la 50e minute. Ce succès a permis aux Black Stars du Ghana de conforter leur place de leader du groupe I avec 19 points, alors que le Mali est 4e avec 12 points. Tom Saint-Fit et ses hommes n'ont aucune chance de terminer premier lors des 2 dernières journées des éliminatoires. Le Mali ira au Tchad avant de recevoir Madagascar. Par ailleurs, en handball, les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales du 32e championnat d'Afrique junior féminin à Oran, en Algérie, sont connus. C'est le classement après la phase des poules. Il s'agit de l'Égypte, la Tunisie, la Guinée et l'Angola. Le Mali termine à la 5e place dans la poule B. Lors de la 4e journée ce jeudi, les juniors du Mali ont été battus par les Guinéennes 38-20.
Merci beaucoup Khalifa et à la semaine prochaine pour d'autres informations sportives.
Et Aïcha, de la musique pour lui souhaiter bon week-end. Cette fois-ci, nous allons choisir Bifenix qui est en featuring avec Lil Dou et le titre c'est Traumatisé.
Oui. Janvier 2022, c'est la date de sortie de ce morceau Lala, un cocktail de voix mélodieuses de Lil Dou et Bifenix.
C'est exact, Aïcha. Nous allons à présent recevoir Moussa Malé Sissoko pour la revue de la presse en langue nationale bamanankan.
La revue de la presse.
Bamoussa Inoula, Ibisimila.
Lala Jara Touré, Aïcha Jara Aounoula, Nisson Dialendo, Kaosro, Kokura. Muso kanyanaje mimbe sangala ni wati na nukama kusware Dior. Ale kona jamana nye maufe kuna fondila ukumano de kan kosobe doa kuinkonana. Lala ikadon kafo kubomako gouverneur. Ale folo de ye batakibo o minkononana aye ni nyanaje yinkon bomako konana. Okera tenendon. Ni sware Dior mimbe uwelefene inafo sware bubu Dior. Ale nyanaje mimbe muso chama franyoronka. Abe sangala kosobe andafe jamana nunu chaman kononana. Enfo maten ale borani kunafoniye. Aba ira kafo koniye nyanaje miye kiba jate mine kafo kanga ladalako ani jien tabolo kurao olu nyogona ou de fralendo nyogon kanka ke gintain ou boke dogola. Mso frule mbala ani pogotgunu. Info maten kafo la kube donke o donkono nana ubu chekse ou lamaga. Walmaka donke mimbe tibakoro ubu jaka. Journal di Mali alebebo doa kun kono shienkele koni mbora yoro were de kana anga jamana kono kake ni bololo miiru walendo kosobe ni watina. Kama kadi kosobe pogotgunu chamae bamako olu munube ni wale nunuke appartement privé ou là. Alsa Journal du Mali Kafola, komi ato ni kuma inchiara bololo sanfe, ko pogotkindo be nuba mako influenceuse TikTok sanfe, ko de welekan bla maouma, kafo kalebeka soare dior la ben, o kerasubabuye, kakuma uchaya bololo sanfe, ani greuna bamako faba konnana. Bamada poenet ko bamako gouverneur kaya ira kafo, ko maouma ede kelembeka soare dior la ben. Walma, nyana jewere mini anga tabia utetani nyogoye ko nyangili berebe daikun. Mie kulikoro gouverneur ye ale fene tugura Bamako gouverneur ko indicateur du renouveau kafola ko colonel Lamine Kapori fene ni wale nkon aka marabolo kononana. Mali web ale kuna fondiso e bololo sanfe koni konte kibaru dumaye e soare jor kadi mamunuye. L'indépendant ale ya ira kafo ko ministre min kabara nyeshinembe kritike ko nyauma jamana kono kaya nyini procureur bela jelenfe ku ka nyangile ke ni koina ko wati mina Bamako ani kulikoro maraboro nyemao yeni wale nkon Mamudu Kasoge ko ni nyanaje mie ani anga ladao nantabia uteta ko nyangile kakakola. Kuna fondisebe mbe bololo sanfe Mali 24 aleko ko maoma ni minana ni wale na ko sharia bin nomine. Ko sabla ko ministeri minga barani shinebe kiri konye uma ayo wele bla suprefe uma. Meru, delegation spéciale munube Meru la olu nyema uma. Ani polisiso directeur regional uma kuka fere bela jelentige kani sharia ina bato. Odebe dansigi anga bi revue de la presse la au kambe doa kumwere.
Moussa Malé, ni chéka ni kuna fondi nounou bela jelena, ikambe wati wera na la sona.
Nous voilà prêts à débarquer, le bus est enfin arrivé à destination, mais avant, la parole est à l'invité pour ses propos conclusifs, Monsieur Ben Essayouti. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour clôturer tout cela?
Alors, encore une fois, je remercie beaucoup le studio Tamani qui est vraiment à l'avant-garde de la diffusion de l'information culturelle. Parce que je ne sais pas c'est combien de fois, mais c'est une fois que je donne des interviews à Studio Tamani. Étant à Tombouctou ou ailleurs, on m'appelle pour des sujets concernant la culture. Donc, on est en plein année de la culture. Donc, je me réjouis de cet intérêt et encore plus de l'intérêt que vous avez eu pour les manuscrits Tombouctou. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important pour les communautés. C'est important pour, comme je l'ai dit tout de suite, ça peut être un facteur de croissance économique si on s'y met, si on y donne l'attention qu'il faut. Et c'est indiscutablement, c'est aussi un sujet de recherche. Donc, voilà.
Et c'est ainsi que se referme le club de Tamani de ce vendredi. Merci beaucoup à M. Al-Bouhari Ben Essayouti. Il est le directeur de la mission culturelle de Tombouctou. Il a été notre invité. On a parlé des manuscrits de Tombouctou. Merci d'avoir suivi cette émission. Grand merci à Sekou Gadigo qui était à la coordination. Mise en onde Mamadou Ouattara, présentation Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. Merci pour votre écoute attentive. À très vite pour un autre voyage au cœur de la culture malienne.